pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
Les As de l'Info et Québec Science. J'ai visité le plus beau voilier au monde. Un texte de Anouchka Debion, stagiaire, paru le 5 août 2026 dans Les As de l'Info. Le mardi 28 juillet, un bateau pas ordinaire a accosté au vieux port de Montréal. C'est l'Amerigo Vespucci, un voilier école pour les jeunes militaires de la marine italienne. On considère même que c'est le plus beau voilier au monde. J'ai profité de ces quelques jours sur place pour le visiter. Monte à bord, je te raconte. Le bateau n'est resté au Vieux-Port que quelques jours. Il ne devait être accessible au public que le samedi et le dimanche. Mais alors que je me suis assise pour le dessiner vendredi, coup de chance, l'équipage l'a ouvert aux visiteurs. Le lendemain, Mélise, stagiaire dans l'équipe des As, a dû attendre 3 heures dans la file. Au total, 14 650 personnes sont montées à bord pendant son escale montréalaise. Ça te montre à quel point ce bateau est légendaire. Un navire école historique. L'Amerigo Vespucci a été construit en 1931. Il a 85 ans. C'est un bateau-école de la marine italienne. Ça veut dire qu'il est utilisé pour apprendre le métier de marin militaire. Mais il n'a jamais servi à faire la guerre. Amerigo Vespucci? Est-ce que le nom de ce bateau te rappelle celui d'un continent? Ce n'est pas une coïncidence. Amerigo Vespucci est le nom d'un explorateur italien qui a découvert que l'Amérique est un continent séparé de l'Asie. C'est un cartographe qui a utilisé son nom pour désigner le continent pour la première fois en 1507. À bord de l'Amerigo Vespucci vivent 400 militaires italiens. Ils embarquent pour des séjours de 3 mois. La moitié sont des étudiants de 20 ans en première année à l'Académie militaire. On les appelle les cadets. Ils sont 170 garçons et seulement 30 filles. Les cadets portent tous la même tenue, une veste foncée avec un pantalon blanc. Les capitaines, eux, portent une tenue toute blanche. L'Amerigo Vespucci fait un voyage par année. En mai 2026, il est parti d'Italie pour rejoindre les États-Unis. Le navire est passé par Baltimore, New York et Boston avant d'arriver au Canada. Il a accosté à Québec avant de s'arrêter pour quelques jours à Montréal. Apprendre à persévérer. La devise du bateau est affiché en grandes lettres dorées en bas du mât principal. En français, ça veut dire « pas celui qui commence, mais celui qui persévère ». C'est une phrase du célèbre peintre et scientifique italien Léonard de Vinci. Ça signifie que commencer quelque chose est facile, mais l'important est de continuer même quand une mission devient difficile. Et justement, les missions des étudiants sont variées. Ils apprennent à accoster, transmettre des informations de navigation et entretenir les moteurs, entre autres. L'un d'eux m'a expliqué qu'ils doivent souvent lâcher ou remonter les voiles à la main, en pleine mer, en fonction des vents. Le plus grand des mâts mesure 54 mètres. C'est aussi haut qu'un immeuble de 18 étages. Ranger les voiles, c'est loin d'être facile. Elles deviennent très lourdes parce que le sel de la mer, transporté par le vent, s'y accroche. Pour remonter la plus grande voile, on est 15, m'a-t-il dit. Pour éviter les chutes, les étudiants grimpent avec du matériel d'escalade. Parmi ces tâches de cadet, laquelle tu préférerais faire? Plier les voiles en haut des mâts? Diriger le bateau? Apprendre comment lancer des SOS? L'Amerigo Vespucci est reparti le lundi 3 août en direction de l'Europe. Il va naviguer plus de 8300 km dans l'océan Atlantique pour retourner à la maison dans la ville de Trieste, en Italie. Son retour est prévu le 12 octobre. Pour le reste de leurs 4 ans d'études, les cadets iront sur des navires plus modernes. Et toi, as-tu déjà voyagé sur un bateau? As-tu rencontré son capitaine? Une bulle increvable. Un texte paru le 28 janvier 2022 dans le magazine Québec Science. Une bulle, semblable à une bulle de savon, a résisté plus d'un an sans éclater. Tu as sûrement déjà fait des bulles de savon et tu sais à quel point elles sont fragiles. À peine quelques secondes de vie et pop, disparu. Mais des chercheurs français ont réussi à former une bulle qui a persisté 465 jours avant d'éclater. Comment? Au lieu de savon et d'eau, leur bulle était faite d'eau, de micro-particules de plastique et d'un liquide clair et visqueux appelé glycérol. Ce trio d'ingrédients minimise les facteurs qui accélèrent normalement la mort d'une bulle. Dans une bulle de savon standard, la gravité attire le liquide vers le bas de la bulle, laissant une fine pellicule sur le dessus qui peut facilement se rompre. L'évaporation de l'eau dans l'air réduit aussi graduellement l'endurance de la bulle. Dans les bulles éternelles de ces chercheurs, des particules de plastique s'accrochent à l'eau par capillarité, ce qui maintient l'épaisseur du film. Pendant ce temps, le glycérol, lui, absorbe l'humidité de l'air, contrecarrant l'évaporation. Lorsqu'ils ont découvert que leur bulle ne s'était pas rompue après quelques jours, les chercheurs ont été vraiment étonnés. Ils ont attendu pour voir combien de temps durerait leur bulle. Et attendu. L'une d'elles a persisté 465 jours avant d'éclater, ce qui en fait la bulle ayant la plus longue durée de vie jamais produite dans des conditions atmosphériques normales. Cette bulle est devenue légèrement verte avant sa disparition, un indice potentiel de ce qui l'a finalement fait éclater. Des microbes ont probablement élu domicile, affaiblissant la structure de la bulle, soupçonne l'équipe. Ils ont quand même publié un article scientifique sérieux sur leur découverte. Tu crois que tu saurais battre ce record de longévité? C'était une bulle increvable, un texte paru le 28 janvier 2022 dans le magazine Québec Science. Un morceau de fusée s'écrase sur la Lune. Un texte de Anouchka Debion, stagiaire, paru le 6 août 2026 dans les As de l'Info. À 1h30, dans la nuit de mardi à mercredi, les passionnés de l'espace avaient les yeux rivés sur leur télescope. Ils attendaient un spectacle peu commun. une collision de fusée avec la Lune. Cet accident était prévu depuis quelques mois. Je t'explique. Ce qui s'est passé. La fusée Falcon 9 a décollé en février 2025 sans personne à bord. Elle appartenait à la compagnie SpaceX du milliardaire Elon Musk. Après le décollage, le propulseur de la fusée et l'étage se sont séparés, comme prévu. Son étage contenait deux engins spatiaux qui devaient se rendre sur la Lune. Mais, avec la force de la gravité du Soleil, de la Terre et de la Lune, ce bout de fusée a dévié de sa trajectoire. SpaceX a perdu son contrôle et l'a classé comme débris spatial. C'est comme un déchet, mais dans l'espace. Quand un véhicule spatial se pose sur la Lune, on dit qu'il alunit, du verbe « alunir ». Comme on dirait qu'un avion atterrit sur la Terre, amerrit sur l'eau ou apponte sur un pont. Des chercheurs américains ont pu prévoir la direction que prenait ce morceau de fusée. Il était aussi grand et lourd qu'un immeuble de 5 étages. Il se dirigeait vers la Lune à près de 9 000 km/h. L'impact a finalement eu lieu très tôt, le 5 août. Résultat, le choc a provoqué un nuage de 50 km de hauteur et créé un nouveau cratère sur la surface de la Lune. Il était difficile de voir l'explosion depuis la Terre, même avec un télescope. Mais des satellites de la NASA l'ont enregistré et publieront les photos dans les prochains jours. On a hâte de voir. Un accident qui peut aider la science. Les impacts d'objets créés par les humains sur la Lune sont très rares. Cet accident offre une bonne occasion aux scientifiques d'étudier ce que ça provoque. Ils regardent, par exemple, le comportement du nuage de poussière que l'impact a soulevé. Ça peut leur donner des informations pour de futures missions, peut-être avec des astronautes. Te souviens-tu? La mission Artemis II a envoyé 4 astronautes du 1er au 11 avril 2026 autour de la Lune. Si tu étais astronaute, quelle mission préférerais-tu? Découvrir la face cachée de la Lune? Aller sur la planète Vénus? Passer dans un trou noir? Faire le tour de la Terre? En résumé, un étage d'une fusée de SpaceX a percuté la Lune dans la nuit de mardi à mercredi. Le morceau de fusée errait dans l'espace depuis plus d'un an et la collision était prévue. L'impact a sûrement créé un nouveau cratère. L'événement sera étudié par les scientifiques. Quelle serait la première chose que tu ferais si tu allais sur la Lune? Une boîte noire pour la Terre. Un texte paru le 21 janvier 2022 dans le magazine Québec Science. Les avions sont équipés de boîtes noires qui enregistrent leurs dernières données de vol avant un accident. La Terre aura bientôt la sienne pour enregistrer ses derniers moments au cas où l'on provoquerait notre perte. Si la civilisation humaine s'effondre, que restera-t-il de nous? Peut-être des parties de certaines villes, les pyramides, quelques monuments? En fait, il ne restera peut-être pas beaucoup de preuves de ce que l'humanité aura accompli ou de ce qui aura entraîné sa perte. Une équipe de chercheurs australiens veut changer cela. Leur solution? Une boîte massive et indestructible qui enregistrera des données scientifiques pour donner aux civilisations futures un aperçu précis de la chute de l'humanité. Le principe est le même que les boîtes noires conçues pour résister aux accidents d'avion et fournir aux enquêteurs des données précieuses sur ce qui a conduit à la catastrophe, sauf que dans ce cas, c'est à l'échelle planétaire. Le projet, un immense monolithe d'acier installé dans un endroit reculé de Tasmanie, est d'ailleurs baptisé Earth Black Box, la boîte noire de la Terre. La boîte géante est conçue pour enregistrer des données climatiques telles que les niveaux de CO2 atmosphérique, les températures de la mer et les niveaux de consommation d'énergie. Elle recueillera également des informations contextuelles comme les titres de l'actualité et les publications sur les réseaux sociaux. Si la Terre s'effondre à cause du changement climatique, cet appareil d'enregistrement indestructible sera là pour ceux qui restent pour tirer des leçons. La boîte elle-même sera fabriquée en acier de 10 cm d'épaisseur et posée sur du granit. À l'intérieur se trouvera un système de disques de stockage connecté à Internet alimenté par des panneaux solaires sur le toit de la boîte. Le plus gros problème pour l'équipe est maintenant de savoir comment aider les futures civilisations, d'ici ou d'ailleurs, à accéder aux informations qu'elle contient. Après tout, ils trouveront juste un monolithe mystérieux au milieu de nulle part, et nous savons déjà que les humains ne sont pas très bons à comprendre les monolithes. C'était Une boîte noire pour la Terre, un texte paru le 21 janvier 2022 dans le magazine Québec Science. Partir en mission pendant 8 mois au pôle Nord. Un texte de Anouchka Debionne, stagiaire, paru le 6 août 2026 dans les As de l'Info. À la mi-août, un bateau scientifique va quitter la Norvège pour se rendre au pôle Nord. Sa mission, mieux comprendre la vie dans cet environnement glacial qu'on connaît peu. J'ai parlé avec Maxime Geoffroy, un expert en biologie marine québécois, avant le grand départ. Il vivra à bord de la station polaire Tara pendant 8 mois. Le nom de la mission est Polaris 1. Le bateau s'appelle Station polaire Tara. Le pôle Nord est le point le plus au nord de la Terre. Il se trouve au milieu de l'océan Arctique, sur de l'eau de mer gelée qu'on appelle banquise. Maxime, pourquoi on a besoin d'aller explorer l'Arctique? C'est une partie de la Terre qu'on connaît peu. On veut comprendre comment la vie s'est adaptée à cet environnement extrême. On va observer les animaux, la glace, l'atmosphère. Moi, j'y vais pour étudier quelles espèces de poissons vivent dans le pôle Nord. Pour faire ça, je vais écouter le son des mammifères marins et filtrer de l'eau pour capturer le zooplancton et les larves de poissons. C'est un environnement fragile, alors on veut aussi étudier ce qui l'affecte. Par exemple, un de mes collègues va étudier les déchets qui arrivent des pays plus au sud. Est-ce que tu vas descendre sur la banquise? Pour certaines missions, comme pour étudier la glace, on doit aller sur la banquise. Mais sinon, Il y a un laboratoire qui nous permet de prendre des échantillons à partir du bateau. La mission est financée par la Fondation française Tara Océan. C'est pour ça que tu peux voir un drapeau français tout en haut du bateau. On a aussi une équipe de plongeurs à bord qui peut aller prendre des échantillons ou réparer le navire. Et il y aura même un robot qui peut descendre dans l'eau et que l'on peut guider à distance. Combien de temps allez-vous y rester? La mission va durer en tout entre 15 et 18 mois. Je vais monter dans le Polaris 1 avec la première équipe qui y restera de septembre à mai. Une autre équipe nous remplacera ensuite. L'expédition va se dérouler en grande partie pendant les nuits polaires. Ça veut dire que le soleil restera à l'horizon sans vraiment se lever. Au pôle Nord, les nuits polaires durent 6 mois, de la mi-septembre à la mi-mars. Pourquoi voulez-vous rester aussi longtemps? Imagine-toi étudier les animaux et les plantes au Québec seulement pendant l'automne. Ça ne donnerait pas les mêmes résultats qu'en hiver. Les saisons, c'est important pour comprendre l'écosystème. Comment le bateau va-t-il se rendre jusqu'en Arctique? Notre bateau partira de la Norvège vers la mi-août, direction l'Arctique. De là, on va suivre un bateau brise-glace chinois. Il va briser la glace devant nous pour qu'on puisse aller le plus au nord possible. Ensuite, on va rester au même endroit jusqu'à ce que la glace nous entoure et qu'on ne puisse plus bouger. Alors on commencera à dériver avec elle. Le bateau a été testé l'année dernière en Arctique avec cet énorme brise-glace allemand. Qu'est-ce que tu as le plus hâte de découvrir sur place? Venant d'Abitibi, j'aime l'hiver et la neige qui craquent, alors j'ai hâte de les retrouver. Ça fait 2 ans que je prépare cette mission, alors j'ai hâte d'enfin découvrir cet environnement extrême dans lequel je ne suis encore jamais allé. Dans quel environnement aimerais-tu faire une mission scientifique? Sur Mars? Au fond de l'océan? Dans le désert? En haut d'un volcan? Qu'est-ce que tu aimerais étudier de près si tu avais la chance de découvrir l'Arctique? Le murmure des arbres. Un texte paru le 12 décembre 2021 dans le magazine Québec Science. Les arbres communiquent entre eux grâce à un vaste réseau souterrain de champignons interconnectés. Rappelle-toi ta dernière promenade en forêt. Des arbres, à perte de vue, des brindilles qui craquent sous tes pas, le vent dans les branches. Tu pourrais même croire que les arbres chuchotent entre eux. Mais s'ils ne parlent pas, les arbres peuvent quand même communiquer via les champignons sous terre. Les arbres entretiennent une relation particulière avec les champignons de la forêt. C'est la symbiose. On parle de symbiose lorsque 2 espèces différentes vivent ensemble et partagent des ressources communes. Dans le cas des arbres et des champignons, c'est donnant-donnant. Les arbres fournissent aux champignons des sucres qu'ils produisent grâce à la photosynthèse, tandis que les champignons puisent dans le sol des nutriments, comme l'azote ou le phosphore, qu'ils partagent avec les arbres. Comment les champignons et les arbres font-ils ce troc? Tout se passe sous terre. Ce qu'on appelle couramment champignon, avec son pied et son chapeau, n'étant fait que la partie visible de cet organisme essentiellement souterrain qui n'est ni animal ni végétal. Il est constitué d'un vaste réseau de filaments ultra fins appelés mycélium qui s'étend sous le sol et enveloppe les racines des arbres. En forêt, ce réseau est si dense que, sous un seul de tes pas, on trouve plusieurs centaines de kilomètres de ces filaments minuscules. Le mycélium d'un même champignon peut être connecté aux racines de dizaines d'arbres différents. Et les arbres utilisent ce réseau pour interagir entre eux. Par exemple, un arbre malade reçoit plus de sucre et de nutriments de la part de ses voisins à travers ce réseau. D'autres substances circulent également, comme du carbone, de l'eau, des signaux de défense, des hormones. Un arbre attaqué par des insectes prévient ainsi les autres du danger. Les plus vieux arbres de la forêt sont les plus connectés au sein du réseau. Ils s'en servent pour aider de jeunes arbres à grandir ou même pour empêcher la croissance de certains voisins indésirables. Il y a aussi des cas où les arbres s'échangent des informations sans l'intermédiaire des champignons, par contact racinaire direct et parfois même entre des espèces différentes. Une forêt, c'est donc bien plus que quelques arbres qui poussent côte à côte. C'est un vaste système complexe et connecté et qui n'a pas fini de dévoiler tous ses secrets. C'était « Le murmure des arbres », un texte paru le 12 décembre 2021 dans le magazine Québec Science. C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui.
Merci à Gilbert, Christiane, Louise, Mathieu et Carlo.
On se retrouve la semaine prochaine.